150 mètres l'une au-dessus de l'autre. La nuit est affreuse, mais le lendemain, les quatre hommes parviennent à se rejoindre et à s'entendre sur un même objectif. Monter jusqu'au Mont Blanc pour redescendre ensuite par la voie classique, celle du refuge Valot. Mais à 400 mètres du sommet, Vincent Don et Henri renoncent, incapables de suivre le rythme des deux Italiens. C'est là que se noue le drame. Épuisés, les deux alpinistes décident de redescendre directement vers Chamonix, dans une sorte de dédale de roches et de glace qu'on n'appelle pas par hasard la combe maudite. Et le pire reste à venir. En décidant de traverser la combe maudite, Vincent Don et Henri ont fait une erreur. À force de se heurter à des crevasses ou à des impasses, le duo finit par s'égarer sur une vire de glace, une corniche qui s'avance au-dessus du vide. L'épuisement fait le reste. Impossible de descendre, impossible de remonter. Les deux camarades se retrouvent immobilisés à 4500 mètres d'altitude, au beau milieu de la face nord du Mont Blanc, avec une température qui descend à moins 30 degrés et encore quand le vent s'arrête. Quand on n'y a jamais été exposé, on peine à s'imaginer ce que c'est que d'avoir vraiment froid en montagne. Quand les rafales se lèvent, la température de moins 30 peut descendre à moins 60. Henri et Vincent Don se retrouvent plongés dans l'horreur blanche. Tenir debout est impossible. Aucun vêtement ne peut vous protéger des bourrasques qui vous secouent. Tout est engourdi, tout fait mal. Le froid saisit chaque endroit du corps en s'attaquant d'abord aux extrémités, les mains, les pieds, les doigts, le nez. La précieuse chaleur corporelle s'échappe de partout, de la tête, du cou, des flancs. La douleur est vive au moindre geste. Tout ce qui est en métal est trop glacé pour qu'on puisse le manier à main nue. Lorsque la nuit est claire, le ciel est noir et indifférent, étoilé et sans pitié. S'endormir dans ces conditions, c'est prendre le risque de ne pas se réveiller. Et quand on se réveille, la douleur est de nouveau là, comme la soif. En montagne, la respiration est plus profonde, l'air froid dessèche les muqueuses, et chaque effort coûte cher au corps qui perd de l'eau très vite. Et puis, il y a les gelures, ces gelures qui transforment les mains en bouts de bois. Dans la vallée, on s'inquiète. Le 27 décembre, inquiet de ne pas voir ses amis revenir, l'alpiniste Claude Dufourmentel donne l'alerte, mais se heurte à une première et sérieuse difficulté. À cette époque, tous les organismes compétents pour des opérations de secours ne sont opérationnels que l'été. À la fin des années 50, un sauvetage en montagne, c'est toute une expédition. Sans moyens, sans hélicoptère, il faut mobiliser 10, 15, 20 personnes pour une tentative qui prend plusieurs jours. Le risque de perdre beaucoup d'hommes pour rien est énorme. Et c'est ce qu'on répond aux amis d'Henri et de Vincent Don. Leurs amis montent bien une cordée en catastrophe, mais les conditions climatiques sont abominables et la neige les empêche de dépasser le refuge de Tête Rousse. Le 28, la presse s'en mêle quand le Dauphiné Libéré titre « Noël tragique au Mont Blanc ». Le même jour, l'armée finit par intervenir en acceptant de déployer ses hélicoptères Sikorsky. L'expédition ne donne rien, mais le lendemain, au miracle, un nouveau vol permet de repérer les deux étudiants. On largue quelques couvertures, mais on ne peut rien faire de plus à ce stade. En revanche, on sait où ils sont, et cela change tout. On les voit d'ailleurs depuis la vallée, pas à l'œil nu évidemment, mais quand on sait où regarder, il suffit d'un télescope pour les repérer coincés au-dessus du vide. À Chamonix, on est persuadé que le salut ne peut venir que du ciel. Dans l'après-midi du 28, un nouveau vol permet de larguer des vivres, des vêtements, des médicaments et un message. On ne peut pas se poser là où vous êtes, remontez 200 mètres en suivant vos traces. Malgré leur épuisement, les deux hommes se hissent en rampant à l'endroit désigné et reprennent leur position. Assis dans la neige, exposés au vent glacial, ils attendent. Une nuit de plus, la quatrième. Le lendemain, 29 décembre, on engage deux hélicoptères. Le survol de la zone permet de constater que les deux alpinistes en perdition sont encore en vie et qu'ils peuvent encore marcher. Tandis qu'on largue à nouveau des vivres, des dizaines de reporters débarquent à Chamonix et tout le pays se met à suivre cette course contre la montre qui s'engage. Mais le 30 décembre, c'est la douche froide. Le mauvais temps interdit toute tentative aérienne. Alors à Chamonix, on s'impatiente. Lionel Terret, alpiniste et guide réputé, ne tient plus. Il bat le rappel, trouve quelques volontaires et se lance à pied vers la combe maudite. Mais la compagnie des guides de Chamonix en montagne refuse d'engager ces hommes. À ses yeux, c'est un suicide. Terray, lui, laisse entrevoir sa colère contre ses collègues, mais aussi contre l'armée. Dans une interview au Dauphiné, il déclare « Les hélicoptères, c'est un truc qui n'est pas encore au point. Il existe de vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves depuis toujours. C'est la caravane terrestre. Je ne peux pas admettre que deux hommes puissent mourir à deux pas de Chamonix sans avoir rien tenté pour les sauver. » Le 31 décembre, la cordée de Lionel Terray, qui s'est donné pour mission de les sauver coûte que coûte, se lance en direction des Grands Mulets. Le même jour, à 12h30, l'opération aérienne est lancée. C'est encore un Sikorsky qui décolle vers le Grand Plateau, avec à son bord deux pilotes et deux guides. Mais le Sikorsky est un hélicoptère pataud, trop lourd et peu maniable. À 13h10, l'appareil est pris dans une rafale et s'écrase à quelques dizaines de mètres des deux alpinistes, au beau milieu de cette combe décidément maudite. L'appareil n'explose heureusement pas. Les quatre occupants sont indemnes. Les quatre occupants, un peu groggy, mais indemnes, rejoignent les naufragés. Un moment pathétique que Honoré Bonnet, l'un des deux guides, immortalise par deux photos. Vincent Don et Henri ont le visage noirci par les gelures et des mains raides comme des bouts de bois, mais ils ont encore la force de parler. Ils promettent de participer à leur tour à des opérations de sauvetage. Pendant ce temps, le deuxième hélicoptère effectue plusieurs rotations pour déposer quatre autres guides au dôme du Goûter, situé à proximité de l'observatoire Valo. Comme les deux alpinistes sont incapables de marcher, on les allonge dans la carcasse de l'hélicoptère en promettant de revenir les chercher, après avoir été mettre en sécurité les deux pilotes à l'observatoire Valo, situé à 2 heures de marche. 2 heures de marche que le mauvais temps et la nuit vont multiplier au point d'obliger les guides à bivouaquer dans un trou creusé à même la neige. Après avoir mis les pilotes en sécurité, les guides avaient prévu de retourner chercher Vincent Don et Henri. Hélas, encore une fois, le sort va en décider autrement. Le 1er janvier 1957, les deux pilotes et 6 guides sont bloqués par la tempête dans l'observatoire Valo. Ils y resteront 3 jours, jusqu'à ce que les conditions météorologiques s'améliorent enfin et permettent aux hélicoptères alouettes, deux bien plus légers et maniables que les Sikorsky, grâce à leurs turbines, d'évacuer tout le monde en quelques heures le 3 janvier. Tout le monde, sauf Vincent Don et Henri. Cela, on les avait presque oubliés, suivant l'injonction du commandant Le Gall. D'abord, sauver les sauveteurs. On commence à se dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les deux naufragés sont probablement perdus. Deux cadavres ambulants, amaigris, épuisés, vidés de leur énergie vitale. Et même si le miracle se produit, le gel a dévasté leurs mains, leurs visages et leurs pieds. On savait que la situation était grave, mais elle est en réalité d'autant plus désespérée que la tempête et les conditions de la montagne très enneigées ont considérablement retardé la cordée de Terray, qui comprend qu'elle a tenté l'impossible et finit par renoncer. Cette fois, tout espoir est perdu. De toute évidence, Vincent Don et Henri n'ont certainement pas pu résister plusieurs nuits de plus dans ce cauchemar. À 10h50, un alouette risque un dernier survol au-dessus de la carcasse du Sikorsky, mais ne repère aucun signe de vie. Éléphant Joyeux n'est déjà plus qu'un cercueil de métal et de glace. À Chamonix, le père de François-Henri va voir le commandant Le Gall et lui fait part de sa décision. Arrêtez tout. Si mon fils est encore vivant, son état est désespéré. De toute façon, je ne veux pas récupérer un homme tronc. Le commandant acquiesce. Et il annoncera un peu plus tard la décision aux parents de Jean-Vincent Don, anéanti. À 11h30, ce 3 janvier, il ordonne l'arrêt de la mission de sauvetage. À Chamonix, les journalistes commencent eux aussi à plier bagages. 3000 mètres plus haut, quand le bruit des derniers rotors s'éteint au-dessus des pentes du Mont Blanc, il ne reste bientôt plus que de la glace, de la roche et du silence autour de la carcasse où reposent les corps des deux étudiants qui rêvaient de l'Himalaya. Et dans la vallée, la peine laisse la place à une polémique qui va vite prendre de l'ampleur. L'interminable agonie des alpinistes Jean-Vincent Don et François Henry s'est aussitôt traduite par l'une de ces controverses dont la France a le secret, animée par la presse et par les prises de position des uns et des autres. Sans même attendre la mort annoncée des deux alpinistes, beaucoup les ont un peu vite dépeints, comme des amateurs irresponsables. La compagnie des guides de Chamonix a fustigé, je cite, « des alpinistes qui mettent en jeu la vie des guides pères de famille en se lançant par esprit de compétition dans des courses au-dessus de leurs compétences ». D'autres ont reproché à demi-mot d'avoir mobilisé des appareils, les Alouettes 2, qui auraient pu être déployés au Maghreb au moment où ce qu'on appelle pudiquement les événements d'Algérie font rage. France Dimanche, dans son numéro du 11 janvier 1957, titrait au-dessus de la photo des guides sauveteurs posant avec leurs enfants, en réalité des figurants réquisitionnés à la sortie de l'école, deux moribonds valaient-ils 17 orphelins. Le monde de la montagne s'est également déchiré entre ceux qui, au nom de la solidarité des gens de montagne, étaient prêts à tout risquer pour aller secourir les deux alpinistes, et ceux qui refusaient de risquer inutilement d'autres vies pour deux garçons déjà perdus. Lionel Terray, le guide infiniment réputé de Chamonix, s'est ainsi vu accusé d'avoir voulu tirer la couverture médiatique à lui en lançant sa propre cordée de secours, une accusation qu'il n'a jamais digérée. Peu de gens à Chamonix ont encouragé les tentatives de Claude Dufourmentel, l'ami de Vincent Don et d'Henri, et le premier qui a donné l'alerte. Les guides, les militaires, les amateurs et tous les professionnels de montagne se sont étriés sur les moyens à mettre en œuvre. L'idée d'un sauvetage par hélicoptère, par exemple, était une bonne idée. Mais pourquoi ne pas avoir engagé d'entrée des alouettes adaptées aux conditions de la très haute montagne? Et pourquoi ne pas avoir mieux conjugué la voie aérienne avec la voie terrestre? À moyen terme, le drame du Mont Blanc ne fut pourtant pas inutile. Face à la confusion, le monde de la montagne s'organise, et l'État aussi. En octobre 1958, moins d'un an après le drame, on crée le premier GSHM pour groupe spécialisé de haute montagne, une brigade blanche de gendarmes expérimentés, habitués à la haute montagne, constamment entraînés pour aller sauver des vies sur les parois les plus abruptes. Le sauvetage héliporté s'est également rationalisé, amélioré et équipé d'un matériel plus adapté, avec des appareils plus puissants et des pilotes mieux formés. Le calvaire de Vincent Don et Henri a enfin conduit les fabricants de matériel de montagne à innover en travaillant dans les années 80 sur une nouvelle génération de vêtements beaucoup plus chauds et imperméables, sur des équipements plus légers, plus résistants et plus efficaces, ou sur des rations plus énergisantes et plus faciles à utiliser. Des efforts qui ont sauvé bien des vies, mais qui ne doivent jamais faire oublier une réalité. Avec la haute mer, la haute montagne reste sans doute le milieu naturel le plus sauvage et le plus hostile de la planète. C'est ce qui en fait la beauté. C'est aussi ce qui en fait le danger.
Europe 1, 15h, 16h.
Cœur de l'histoire.
Bonjour Yves Balu, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonjour Stéphane Berne.
Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire du Mont Blanc. On peut dire que ce drame a permis la professionnalisation du secours en montagne.
Oui, incontestablement. Il y a eu un tel choc dans l'opinion publique, par ce drame, que l'idée de consacrer des moyens de la collectivité pour sauver ou tenter de sauver des alpinistes en détresse s'est imposée un peu comme une évidence. Avec le temps, l'évidence est devenue un peu moins forte. Mais aujourd'hui, en tout cas, le secours en montagne, c'est devenu un métier. Et ceux qui l'exercent, qui l'aiment, sont des professionnels qui s'y consacrent à plein temps, qui s'entraînent, qui disposent d'un matériel adapté, des hélicoptères, et qui jamais ne se plaignent de risquer leur vie pour aller chercher ceux qu'on appelait des imprudents, entre guillemets, c'est-à-dire des alpinistes en difficulté. Et je peux en témoigner parce que j'ai le privilège, il y a quelques années, de participer avec eux à des sauvetages au PSGHM de Chamonix. Et je peux vous dire, c'est comme les pompiers, les sauveteurs en montagne. Une journée sans sauvetage, c'est pas une bonne journée pour eux. Ils aiment aller chercher les gens, les ramener.
Yves Balu, vous avez consacré il y a 25 ans une enquête à l'affaire Vincent Don et Henri, naufrage au Mont Blanc, reparu en poche aux éditions Glénat. On va d'abord se replacer dans le contexte dans lequel Vincent Don et Henri décident de gravir le Mont Blanc en plein hiver 1956. Il y a dans les années 50, je le disais, un véritable engouement pour l'alpinisme, non ?
Oui, c'est un peu un âge d'or de l'alpinisme. C'était pas le premier, ce sera pas non plus le dernier, mais un moment où il y avait une véritable passion avec des grands noms comme Bonatti, Rébuffa, Terray, avec des revues qui parlaient de montagne, qui parlaient d'exploits, et chez les amateurs, ça suscitait un véritable enthousiasme, en particulier les grimpeurs parisiens qui s'entraînaient sur les rochers de Fontainebleau, où ils acquéraient une dextérité, une technique d'un très haut niveau, qu'ils allaient ensuite exercer dans les Alpes pour se mesurer aux, de ce qu'on appelait les derniers grands problèmes. Et tout ça dans le contexte des années 50-60, la fureur de vivre, qui est avec une émulation qu'un alpiniste célèbre, Pierre Alain en l'occurrence, dont il a parlé dans un livre dont le titre est « Alpinisme et compétition ». Et c'est un terme qui reflète bien ce qui se passait à cette époque-là.
Qu'est-ce qui faisait rêver ces jeunes garçons selon vous? Qu'est-ce qui les motive, ces rêves de sommet? Ce sont des citadins qui ne sont pas des professionnels de la montagne, même si l'un avait l'intention de devenir guide de montagne.
Alors il y a déjà quelques citadins qui sont devenus guides de haute montagne et célèbres comme Terray, Rébuffa, Lachenal, qui ne sont pas nés à Chamonix ni dans une vallée alpine, et d'autres alpinistes qui ne rêvaient pas d'être des guides, mais simplement d'exploits, nourris, comme je l'ai dit, par la littérature alpine. Et aussi, et c'était le cas de Jean-Vincent Don, qui avait pour ambition un peu secrète, ou même pas secrète, d'être admis au sein du GHM, le groupe de haute montagne, qui est un petit peu l'académie des alpinistes de très haut niveau, avec une liste de courses un peu prestigieuse. On était admis dans ce cénacle des alpinistes de haut niveau. Et donc c'était en tout cas l'ambition de Jean-Vincent Don.
Leur ascension débute le 22 décembre, et très vite, on le voit bien, Vincent Don et Henri sont en grande difficulté. Quel environnement faut-il imaginer? Parce qu'ils vont se trouver très vite dans la capacité de se déplacer et coincés au-dessus de la combe maudite.
Alors, pour comprendre ce drame et peut-être la mécanique de ce drame, moi, je vous propose qu'on s'intéresse un peu à l'intimité de l'accordé de Vincent Don et Henri. En deux mots, Vincent Don, c'est un peu un titi parisien, sympathique, fort en gueule, pas très baraqué, mais bon grimpeur et aspirant guide. Henri, c'est un beau gaillard, idéaliste, grand cœur. Il admire celui qu'il considère comme son chef de cordée, c'est-à-dire Vincent Don. Mais la rencontre avec Bonatti, qui est une star de l'alpinisme, va modifier les choses. C'est-à-dire que Vincent Don va avoir du mal à supporter la comparaison avec Bonatti, dans les yeux de son compagnon François-Henri. Et il la supportera d'autant moins cette comparaison qu'au lendemain de leur bivouac, il va peiner à suivre le rythme du guide italien qui les a pris sur sa corde. Ça va être pour lui une humiliation de ne pas pouvoir suivre la cadence de Bonatti. Et bien qu'épuisé, il va tenter de mettre un terme à cette humiliation en reprenant son autonomie, c'est-à-dire il va dire « Allez, on se sépare et on va les rattraper, mais on se sépare ». C'est une décision qui est vraiment la décision fatale.
Dans votre livre, vous racontez que très peu de temps avant la tentative de Vincent Don et Henri, deux de leurs amis avaient réussi l'ascension du Mont Blanc. On peut dire que Vincent Don et Henri ont commis des erreurs, outre celles que vous venez de nous expliquer.
Oui, certainement. D'abord, les amis en question, ils avaient réussi cette ascension, mais l'année précédente, ils avaient fait une jeune tentative. Alors que Vincent Don et Henri n'avaient aucune expérience de l'alpinisme hivernal. Bon, mais il y a un début à tout. Ensuite, ils ont fait une deuxième erreur, c'est qu'ils ont envisagé cette ascension comme une véritable expédition himalayenne avec des sacs énormes, avec tout le matériel de survie, et ces sacs qui vont vraiment les épuiser au point de compromettre leur ascension. Et enfin, la troisième erreur qu'ils ont commise, j'en ai parlé à l'instant, c'est de se séparer de Bonatti, qui était un peu leur assurance vie. Bonatti au Mont Blanc, on est sûr qu'on va s'en sortir avec lui, parce qu'il est, c'est une force de la nature, il connaît parfaitement le massif du Mont Blanc, et donc il fallait surtout pas se séparer de lui. Malheureusement, c'est la décision qu'a prise Jean-Vincent Mont, qui est une grosse erreur.
Il valut le 31 décembre 1956 un hélicoptère qui devait récupérer Vincent Don et Henri s'écrase sur le plateau où ils se trouvent piégés. C'est désormais 6 hommes qu'il faut sauver du froid. Les guides décident d'aller mettre les pilotes à l'abri à l'observatoire Valo et promettent à Vincent Don et Henri de revenir les chercher. C'est la dernière fois qu'on les verra vivants. Sait-on quelle a été la teneur des derniers échanges entre les jeunes garçons et leurs sauveteurs ?
Écoutez, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse des reproches. Vous vous rendez compte un peu? Regardez dans quel état nous sommes et pourquoi vous avez traîné autant pour venir nous chercher. Non. Aucun reproche, au contraire, des excuses et des remerciements, avec peut-être un manque de lucidité. François-Henri qui promet que, une fois rétabli, il ira faire lui-même des secours en montagne. C'est les derniers échanges qu'on a avec eux, que les sauveteurs ont avec eux, des échanges un peu difficiles parce que Vincent Don progressivement devient comateux et Henri, il a un peu du mal à parler parce que on voit sur la photo, sur les photos de d'Honoré Bonnet. Il a le visage gelé, il a tout un côté du visage, celui qui était exposé au vent, qui est noirci, et donc il a du mal à s'exprimer. Mais enfin, il est lucide et il s'exprime en tout cas.
Mmh. Les jours suivants, la météo peu clémente empêche toute nouvelle opération de sauvetage. Et le 3 janvier, les opérations sont arrêtées. On considère donc que Vincent Don et Henri n'ont pas pu survivre. Quelles ont été les réactions après que cette décision a été rendue publique ?
Les réactions, vous avez évoqué vous-même celle du père de François-Henri, qui était veuf, donc la maman était morte depuis quelques années. Le père de François-Henri, qui avait lui souhaité même qu'on arrête ces opérations de secours, lors de la conférence de presse, le commandant Legal, qui était le patron du secours en montagne dans cette opération, a dit, mais en fait, ils étaient morts et tout le monde savait qu'ils étaient morts depuis plusieurs jours. Et en entendant cela, les parents de Jean-Vincent Don ont été atterrés, bouleversés en disant, mais enfin, tout le monde savait qu'ils étaient morts, sauf nous. On nous l'a pas dit. Ils ont quitté la conférence de presse complètement détruits et désespérés.
Mmh. On a retrouvé dans les archives d'Europe 1 l'interview de l'un des sauveteurs réalisé le 3 janvier 1937 par le journaliste Jacques Paoli. Voici les informations qu'il recueille concernant l'état de Vincent Don et Henri.
Lorsque vous avez trouvé dans la montagne Vincent Don et Henri, dans quel état étaient-ils ? Je crois qu'ils étaient déjà très souffrants.
D'un état de faiblesse extrême, et en particulier incapables de se déplacer eux-mêmes, ayant les deux jambes gelées à peu près jusqu'à hauteur du genou, et les deux avant-bras gelés, n'ayant plus de gants d'ailleurs.
Ils avaient perdu leurs gants.
Ils avaient perdu leurs gants. L'un d'entre eux, Henri, avait de plus la partie gauche de son visage complètement gelée et l'œil gauche fermé.
Yves Balu, est-ce qu'on aurait pu les sauver, selon vous ? Parce que c'est une situation désespérée qui est décrite. On n'est pas sûr qu'ils auraient pu survivre à cela.
Alors, pour moi, l'évidence, c'est qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, on les aurait évidemment sauvés, et même assez rapidement. Et ce qui n'aurait pas posé de problème pour la suite, pour eux. Mais, à l'époque, je reste persuadé qu'ils étaient sauvables si on avait, dès le début, coordonné et organisé comme il faut les différents moyens de sauvetage, c'est-à-dire les moyens aériens, hélicoptères, les moyens terrestres avec différentes approches. On pouvait essayer de rejoindre la combe maudite, soit en partant de Saint-Gervais, soit en partant de Chamonix. Et en coordonnant tout ça et en prenant surtout la décision dès la première alerte de Claude Dufour-Mantel, on aurait pu arriver jusqu'à eux et les sauver. Alors, dans quel état et avec quelle suite, ça tout dépend du temps qu'on aurait mis pour arriver jusqu'à eux. Mais si on avait pu arriver jusqu'à eux en 2 ou 3 jours, ce qui était à mon avis possible, on avait toutes les chances de les redescendre sains et saufs, avec probablement des séquelles quand même.
Le sauveteur qui témoigne dans cette archive n'est autre qu'Honoré Bonnet, que vous avez rencontré des années après le drame. À quel point avait-il été marqué ?
Ah, moi, je l'ai rencontré et il m'a raconté 40 ans après cet épisode. Il a dû secourir l'un des deux pilotes, l'adjudant blanc, qui est tombé dans une crevasse à proximité de l'hélicoptère. Il a dû le remonter. Et Honoré Bonnet, c'était pas un très grand gaillard. Donc, il a eu beaucoup de mal à remonter ce grand gaillard qui était l'adjudant blanc. Il l'a remonté, il l'a ramené dans la carcasse de l'hélicoptère et il l'a fait allonger à côté de François-Henri. Et il m'a raconté que François-Henri a essayé de réconforter ce pilote qui était assez choqué. Il a essayé de le réconforter et de le réchauffer avec ses mains qui étaient que des glaçons, que du bois mort. Et il m'a dit, quand j'ai vu ça, je suis sorti pour pleurer. Et en me racontant cela, il pleurait encore. Il était encore bouleversé 40 ans après par cette scène absolument terrible et qui dénote quelque part aussi le courage et le grand cœur de François-Henri.
Mmh. La presse s'est emparée de cette tragique histoire qui a fait l'objet d'un feuilleton pendant plusieurs jours. Dans quelle mesure cette affaire a-t-elle bouleversé la société et peut-être a-t-elle dépassé les frontières du pays aussi ?
Oui, je peux témoigner parce que j'ai l'essentiel des journaux qui ont été publiés à cette époque, et j'ai des journaux étrangers, ou même jusqu'aux États-Unis. Donc c'est une affaire qui a eu un retentissement considérable, et l'émotion qu'elle a suscitée a permis de faire accepter à l'opinion l'idée qu'il fallait prendre en charge de façon collective le secours en montagne. Et c'est grâce à, notamment à Vincent Drouet-Henry, que ce secours en montagne a pu être mis en place et a sauvé bien des vies un peu plus tard.
Yves Valu, vous avez été en contact avec Jean-Henri, le frère de François-Henri, qui plusieurs décennies après le drame a rencontré l'un des sauveteurs intervenus sur le Mont Blanc. Racontez-nous.
Écoutez, ça s'est passé en juin 2007. Jean-Henri, le frère aîné de François-Henri, qui vivait aux États-Unis, donc, est venu en France et j'ai accueilli à la maison. Et je lui ai proposé d'aller à Chamonix retrouver les deux guides qui vivaient encore. Et donc, il a accepté bien volontiers. Et je l'ai emmené à Chamonix et au cimetière de Chamonix, où il y a maintenant une plaque à la mémoire de Vincent Drouet et Henri. Ils se sont trouvés et j'ai vu cette scène bouleversante de ce guide de 90 ans, qui était une figure de la vallée, quelqu'un de très respecté, qui est tombé dans les bras de Jean-Henri en disant « Enfin, quelqu'un à qui je peux demander pardon ». Et ils se sont parlé un peu dans leur coin, on ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit, mais 6 mois plus tard, Gilbert Chapaz est décédé et son fils Gilles, qui est un ami, m'a écrit une lettre en me disant « Yves, je te remercie parce que papa, pendant 50 ans, il a eu dans son sac un gros caillou. Et grâce à toi, il a pu se libérer, s'alléger de ce gros caillou. C'était une des dernières joies de sa vie de pouvoir rencontrer quelqu'un à qui il a demandé pardon pour ne pas avoir tenu la promesse de revenir chercher François-Henri et Jean-Vincent Don.
Merci beaucoup Yves Valu de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire de Vincent Don et Henri, les naufragés du Mont-Blanc. Je rappelle que votre livre « Naufrage au Mont-Blanc, l'affaire Vincent Don et Henri » est disponible aux éditions Glénat. Merci beaucoup.
Merci.
Suite de nos programmes de nuit, c'est la libre antenne. Vous allez pouvoir redécouvrir des témoignages au micro d'Olivier Delacroix juste après l'artiste franco-norvégien Aimé Simone qui est de retour avec ce titre In My Blood sur Europe 1. C'était Aimé Simone, que vous pourrez applaudir sur scène à Paris l'année prochaine, le 20 novembre précisément, 20 novembre 2025, à l'Olympia. Et je dis ça pour ceux qui n'ont pas pu avoir de place la semaine dernière pour le Trianon. Allez, la nuit sur Europe 1, vous le savez, on vous propose de redécouvrir nos émissions. Et celle qui arrive est dédiée exclusivement aux auditeurs d'Europe 1 qui ont besoin d'être écoutés, parfois réconfortés, voire guidés. C'est la Libre Antenne. Ah bon, il nous arrive aussi de sortir des sentiers battus pour vous offrir des émissions spéciales. Et ce sera le cas d'ailleurs ce samedi soir avec Valérie Darmon qui propose une Libre Antenne consacrée aux prédictions de voyance et à la numérologie. Ses invités, Frédéric Williams, médium bien sûr, et Éric Darmon, astro-numérologue. Pour l'heure, on retrouve Olivier Delacroix avec des témoignages entendus cette semaine.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci de m'accueillir sur votre antenne.
Je vous en prie Hélène. Quel âge avez-vous et d'où m'appelez-vous Hélène?
Alors moi j'ai 60 ans, je vous appelle à côté de Versailles,
d'accord,
du Chênay.
Quand on vous rencontre, on n'a aucune idée que finalement... vous avez traversé des moments très compliqués dans votre vie. Est-ce que cela est dû au fait que vous soyez aujourd'hui plus en paix, comme vous me l'avez dit en début de témoignage?
Bah aujourd'hui, vous savez, pour être aujourd'hui si apaisée, j'ai dû faire un travail forcément parce que on peut pas sortir indemne de ces épreuves. C'est comme si on traînait des casseroles derrière soi qui sont très lourdes à porter, qui font beaucoup de bruit.
Oui.
Et après un travail, ces casseroles, elles sont presque douces. On les a toujours, elles vont pas s'en aller, le passé on ne l'efface pas, mais on les supporte et on ne pleure plus à la moindre évocation, on a comme une forme de détachement et c'est vraiment, le travail est nécessaire et quand j'entends des gens qui disent « oui, je vais voir un psy », non, mais les psys, c'est pour les fous. Alors là, ça existe encore, ce genre de discours, hein, malheureusement. Mais moi, je dis, mais quelle erreur. C'est vraiment des discours archaïques parce que le psy ou le psychologue ou le psychiatre, ce qu'il va faire, il va nous faire parler et puis il va nous aider surtout à aller mieux. Il va décortiquer avec vous, il va vous faire comprendre ce qui s'est passé et pourquoi vous allez mal, mais c'est souvent parce que ce sont les autres qui, de votre entourage, qui ont créé une situation invivable,
oui.
Et c'est vous qui allez mal. Donc c'est vous qui allez mal et c'est vous qui devez aller consulter, alors que la plupart du temps, ce serait plutôt ceux qui provoquent votre mal-être qui devraient aller consulter.
Situation, on va le voir, où l'entourage dysfonctionné, puisqu'on va parler de la violence qui s'est installée très tôt dans votre vie dès l'enfance, vous avez raison de dire que finalement du dysfonctionnement des autres, de leur violence, naissent sans doute des comportements, des réactions qui deviennent des sortes de mauvais fonctionnements avec lesquels nous évoluons. Et le psy va nous aider à mettre le doigt dessus et on va comprendre pourquoi ce n'est pas la bonne façon de fonctionner et qu'on va pouvoir modifier. C'est souvent sur cette Libre Antenne ce que je prône. Le psy aide à nous éclairer sur nos mauvais fonctionnements et ça nous aide à pouvoir changer des choses qui nous embarrassent en fait. Il y a encore beaucoup de gens qui
ne veulent pas entendre parler de ça. Le psy c'est pour les fous. Alors
oui,
là, bon, c'est vraiment un discours un peu
archaïque, comme vous l'avez dit.
Oui, c'est archaïque, c'est complètement archaïque comme mode de pensée. Bon.
Alors. La violence, vous l'avez connue dès l'enfance, hein, Hélène.
Oui, assez rapidement, on va dire.
Déjà par votre père.
Oui, c'est surtout par mon père, c'est-à-dire que on a vécu un abandon. Ça, c'est un abandon. Un abandon, c'est compliqué. On est de la même génération et puis à notre époque, on va dire, ce que je vous englobe, on va dire que les parents qui divorçaient, ça se faisait pas trop. C'était pas encore dans à notre époque, on va dire, dans les classes, il n'y avait pas la moitié des élèves dont les parents étaient divorcés.
C'était mal vu. Vous avez raison.
Oui, c'était, ça n'existait pas. Hein. Et donc, je me suis retrouvée à 7 ans, 8 ans, donc dans ma classe, mais je n'ai jamais dit que mon père, il était parti, tout simplement. À l'école, quand on demandait à chaque rentrée profession du père, profession de la mère, je remplissais sagement, docilement, et jamais mes professeurs n'étaient au courant. Et en même temps, ma mère jamais n'est allée voir les professeurs. Bon, peut-être qu'elle aurait dû le faire, parce que c'est vrai que ça aurait aidé. Par exemple, quand vous êtes enfant et qu'à l'école, on va préparer le cadeau pour la fête des pères, et que vous rentrez à la maison avec un cadeau donné à personne, c'est compliqué. Des choses comme ça, et ça marque. Il y a rien à faire, hein. Ça marque. C'est vrai que l'abandon, c'est
quelque chose de très violent et qui...
C'est violent, oui, c'est très violent. Surtout que moi, j'ai vu mon père faire ses valises. C'est bien plus tard que j'ai compris qu'il s'en allait. Et sur le moment, j'étais petite, j'ai pas bien compris. Et c'est après que j'ai compris que, c'était moi la dernière à l'avoir vu.
D'accord.
Voilà.
Vous l'avez vu s'en aller.
Oui, je l'ai vu s'en aller, oui, absolument.
C'est très violent, très... très triste pour une jeune enfant de voir son père. Mais il vous a parlé, il vous a expliqué son départ.
Non, pas du tout. J'étais en train de feuilleter un petit catalogue et je lui montrais. C'était doit être un catalogue de jouets. Je lui disais, regarde, j'aimerais bien avoir ça ici. Puis lui, il était en train de faire ses valises. Il n'avait pas le temps de regarder. Il regardait sans regarder. Visiblement, il était très pressé. Il avait un avion à prendre et il est parti. La porte s'est fermée. C'était fini. Mais moi, petite, je ne savais pas, que j'ignorais complètement. C'est après que j'ai compris. Bien plus tard, c'est dans les souvenirs, vous savez.
Oui.
Voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça que ça se passe.
Le problème, c'est que
dans le brut de la réalité.
Votre mère s'est en plus remariée avec un homme alcoolique et violent.
Là, ça c'était assez compliqué aussi. Et on a vécu, mon frère, ma sœur et moi, dans une situation extrêmement toxique. Donc on avait affaire tous les 15 jours à peu près à des disputes assez violentes. On a traversé toute notre enfance face à des disputes. De la violence, des portes qui claquent, des objets cassés, c'était ça tout le temps. C'est vrai que c'était compliqué à vivre et on a essayé de partir dès qu'on a pu.
Oui, votre père est revenu à un moment dans
votre vie. Il est revenu un moment, bizarrement, et puis il n'est pas resté très longtemps. Il n'est pas resté très longtemps et un jour il est reparti. En nous disant il n'y a pas de travail pour moi en France, je dois repartir à l'étranger. Et puis il a mis sa main sur mon épaule et il m'a dit, toi Hélène, tu es l'aînée, tu dois t'occuper de ton frère et ta sœur maintenant. J'avais une grosse responsabilité qui m'est tombée dessus tout d'un coup sur les épaules, j'avais 13 ans. Et il nous a laissé devant la maison, il est parti en voiture et il est parti pendant 25 ans et on l'a pas revu pendant 25 ans. Pas de nouvelles pendant 25 ans. C'est un monsieur un peu, insaisissable, impénétrable.
Oui.
Il est très difficile à définir. Mm-hmm. Il est très, très mystérieux. Il a très, très mal fini aussi. Donc,
il s'est suicidé, il vous a abandonné une seconde fois.
Il nous a abandonnés une seconde fois.
D'une manière violente, en fait, puisque le suicide est quelque chose de très violent.
On peut même pas décrire la façon dont il s'est suicidé, parce que c'est tellement... C'est un suicide... c'est d'une extrême violence. C'est à la japonaise, hein, vous savez.
D'accord.
Je vais pas le décrire, mais c'est à la japonaise. Voilà, c'est tout ce que j'imagine. Je peux dire. C'est pas avec des médicaments, ni... c'est très sanglant. C'est sanglant.
D'accord.
Ouais,
en tout cas, toute cette violence, on peut dire qu'elle laisse des traces indélébiles. Je parle souvent de l'enfance comme d'un drap, d'un linceul blanc, éclatant, Et lorsque l'on vit des moments comme ça, où violents, où quelque part notre enfance est malmenée, blessée, agressée, troublée en tout cas, il reste des traces sur ce linceul qu'il faut, de mon humble avis, revenir laver un jour pour ne pas en être imprégné toute sa vie.
Ah oui, ça c'est sûr.
Et si je parle de cela, c'est que on va le voir dans votre vie de femme, cette violence est à nouveau revenue. Pourtant, en fait, vous êtes mariée avec un homme et les trois premières années de votre mariage, ça s'est plutôt bien passé avec votre conjoint. À quel âge vous êtes-vous mariée d'ailleurs ?
J'avais 26 ans.
26 ans,
oui.
D'accord.
Oui, 26, 27 ans, oui.
Au début, ça se passait plutôt bien, donc
oui.
Vous n'avez
oui,
rien...
ça se passait plutôt bien. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a été au chômage. On a dû déménager pour qu'il retrouve un emploi. Et on est parti en Lorraine, à Nancy. Et à Nancy, donc, il travaillait un an, 18 mois à peu près, et il est retombé au chômage. Et à partir de là, les choses se sont dégradées. Je pense qu'il vivait très mal cette période. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile à vivre, hein, je ne vais pas dire le contraire. Et à partir de là, il y a eu des... Il y a une première fois, tout d'un coup, vous recevez une claque et on comprend pas ce qui nous arrive.
Oui.
Et là, la première fois, on est dans
sidéré.
Un état de, on est dans un état de sidération parce que on ne peut pas. Je pense que si aujourd'hui, parce que avec le recul, je me dis mais. Mon cerveau, il a dû se protéger et se dire bon, alors tu as fondé ta vie, tu as scellé une alliance avec un homme que tu aimes, mm-hmm. et tout d'un coup, tout semble se remettre en cause. Parce que une claque, c'est peut-être pas grand-chose, mais
beaucoup une claque.
On est tellement, on n'y croit pas en fait.
Bah oui, mais c'est énorme, ce geste de mettre une claque à un homme ou à une femme. Hein. Mais à une femme, c'est pire, parce que bien évidemment, un homme est plus fort qu'une femme physiquement. Mais mettre une claque, le symbole. La symbolique de mettre un coup à quelqu'un, c'est souvent pour lui dire « tais-toi » ou pour lui imposer quelque chose d'un seul coup, parce que les mots, c'est fini. Il n'y a plus d'intellect, il n'y a plus de raison, de rationnel. Il y a,
il y a plus de dialogue.
Il y a un acte violent pour faire taire l'autre, pour le réduire. À néant, en fait.
À néant, c'est ça. Et puis, utiliser la force physique, c'est déjà une preuve de lâcheté absolue. Parce que forcément, il y en a un qui est plus fort que l'autre.
Oui.
C'est une forme de lâcheté. Et puis, c'est le refus du dialogue. C'est l'intelligence, elle n'existe plus. Là. C'est juste la force physique qui intervient. Donc, on pèse pas lourd à côté, disons. C'est ça, quoi. Et donc, comme je disais, il y a cette sidération qui arrive. Et puis, très vite, on a un sentiment de honte. On se dit, mais c'est pas possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on va refouler ce qui s'est passé.
Oui.
Parce que c'est trop dur à supporter de ce qui vient de nous arriver. Donc, on refoule. C'est comme si ce qui s'est passé n'avait jamais existé. Sauf que, la réalité, le réel, on se confond de nouveau au réel. Et la réalité, elle revient au galop. Alors, il y a des phases d'accalmie. Et puis, pour une broutille, la violence ressurgit.
Est-ce que vous pensez que c'est la première claque que vous recevez, qu'il vous met, lui aussi, parce que il y a aussi lui, hein, dans sa tête, toutes les conséquences que cela entraîne, selon la réaction que vous avez eue. Si tout à coup vous vous étiez défendu, si vous lui aviez rendu, si vous n'aviez pas eu cette sidération, alors vous voyez ce que je veux dire. Sauf que là, vous si vous êtes sidéré, vous ne dites rien, vous êtes dans la honte. Et lui, dans sa tête, que se passe-t-il? Mais il se dit, je viens de lui mettre une claque. Elle la ferme. C'est ce que je voulais. Est-ce que finalement, ça n'ouvre pas la porte à la suite?
Alors si, justement, c'est ce qu'on m'a expliqué après. C'est
d'accord.
Que, pour en avoir. Évidemment, pour avoir travaillé avec un psychologue, il m'a expliqué que, en fait, quand vous ne réagissez pas, pour l'autre, eh bien, c'est une acceptation. Ça veut dire que, on pourrait dire qui ne dit mot consent. Donc, je ne dis rien, je suis d'accord. C'est ça que ça veut dire.
Oui,
évidemment, ça, sur le moment, nous, on n'en est pas conscient. Mais c'est ça que ça veut dire. Et donc, lui, il considère que ce qu'il a fait, c'est d'accord. Donc, la prochaine fois, ça sera double peine. Et ainsi de suite. Donc, quand vous aurez une claque, ensuite vous en aurez deux, ensuite vous en aurez trois. Et ça continue ainsi de suite. C'est une vraie spirale.
Il y a eu donc une escalade dans...
Oui, une escalade.
Oui, dans son
exactement.
Comportement.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est après, quand on en discute, quand on travaille le sujet avec un professionnel, un psy,
oui,
qui vous explique tout ça. Et c'est vrai que à ce moment-là, on prend conscience de ce qui s'est passé et on voit l'escalade. Effectivement, il y a eu une escalade.
Mm-hmm.
Mais sur le moment, nous, on en a pas du tout conscience.
D'accord. Mais racontez-moi donc.
On est complètement.
Ça a continué. Comment et jusqu'à où ça? Est-ce que ça devenait régulier? Est-ce que
c'est régulier. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, si vous voulez, le moindre petit événement, ça peut le faire partir en vrille et la colère éclate. Et puis, c'est un coup de pied, c'est un verre d'eau dans la figure. À la fin, on arrive à un couteau qui vous lance dans la figure.
D'accord.
C'est ça qui se termine. Ça se termine par un couteau.
Mm-hmm.
Donc, c'est au bout d'un moment, il est temps de partir.
Mais ça n'est pas si facile que ça, de partir.
Non,
Vous avez évoqué la honte.
Oui, la honte, mais partir aussi, ça exige une organisation, une logistique. Là, on est confronté au réel, c'est-à-dire à se dire, je peux plus supporter cette vie, mais je m'en vais où? C'est la première question à laquelle il faut répondre.
Comment? Où?
Et toutes les femmes qui sont confrontées à la violence et qui vivent avec leur bourreau, parce qu'on n'a pas le choix de vivre autrement. On est obligé de vivre avec et vivre à côté de lui. Et on sait que le moindre événement peut provoquer sa colère et puis que ça va nous tomber dessus. Mais c'est comme ça. On doit vivre avec, on doit vivre sous le même toit. Mais la question qui se pose, c'est où je vais? Ça, c'est la première question. Et quand on a des enfants, eh ben, croyez-moi, c'est pas simple du tout.
Je veux bien vous croire.
Parce que s'en aller toute seule, à la limite.
Combien d'enfants vous aviez? Parce que
À l'époque, j'avais une fille, ma fille qui avait deux ans et demi.
Oui.
Donc, j'ai réussi à la faire changer d'école en cours d'année. Ça n'a pas été simple, mais voilà. Et ça a été évidemment pour elle aussi un vrai traumatisme, hein, parce qu'elle aussi, elle a vécu des situations. J'ai vécu la violence, mais elle l'a vécu aussi. Elle en a été témoin et elle s'en rappelle. Même à son petit âge, elle s'en rappelle. Elle s'en rappelle très bien. Et il y a des choses, je pourrais plus jamais lui faire manger. Il y a eu, des événements. Elle est marquée à vie. Donc oui, elle a été témoin. Ça c'est clair. J'ai pas pu empêcher le fait qu'elle voit, qu'elle vive, mais
la protéger de ça.
J'ai pas pu la protéger. Moi, après, je l'ai protégée en l'emmenant avec moi, mais mm-hmm. Voilà. Puis c'est difficile pour elle aussi parce que d'avoir un papa violent, c'est quand même son père et elle l'aime malgré tout.
Bien sûr,
et
ça, bien sûr.
C'est difficile hein, dans la tête d'une enfant d'aimer son père qui est une personne violente. Voilà.
C'est difficile de désaimer.
Oui, bah on peut pas désaimer.
Non, on ne peut pas.
On peut pas désaimer son père, c'est pas possible.
Non, non, vous avez raison.
Donc voilà, c'est compliqué. Hein. Voilà, voilà. Bon.
Alors vous êtes. Vous subissez longtemps cette situation.
J'ai subi.
Combien d'années?
Bien à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Mm-hmm. Mais en même temps, je vous dis, c'est d'abord il y a des étapes. Bon, il y a aussi il y a une étape pour moi qui a été vraiment déclenchante, c'est quand. J'ai appris que j'étais gravement malade.
Mmh. C'est ça qui déclenche, je crois.
Oui, c'est ça.
Je crois savoir que c'est la violence de cette annonce et finalement la gravité hein, de l'annonce. Je crois que c'est chez votre gynéco que vous apprenez que vous avez un cancer du col de l'utérus.
Oui, voilà.
Que vous prenez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que justement ça bouscule l'ordre établi, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous subissez cette violence, et là, il y a quelque chose qui vous dit non. Ça va se terminer.
Alors en fait, je rentre à la maison, je sors de chez le gynécologue qui me dit, écoutez madame, vous avez un début de cancer, il faut vous opérer dans 15 jours. Donc il me dit je prends toutes les mesures nécessaires, il faut aller très vite. Et donc on sort de là, on est quand même sonné parce que voilà, on a les jambes qui tremblent, on n'est pas bien. Et donc je rentre à la maison et forcément j'annonce ça à mon mari. Et bien à ce moment-là, j'aurais attendu une épaule, des bras, des paroles chaleureuses qui me disent, écoute, on est deux, on va s'en sortir, t'en fais pas, je suis là. Non, j'ai pas entendu ça. J'ai entendu, qui est-ce qui va s'occuper de la petite quand tu seras à l'hôpital?
Voilà, il m'est passé un mot dans la tête que heureusement qu'il n'est pas sorti spontanément.
Voilà ce que j'ai entendu. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne finirai pas ma vie avec cet homme. Ce n'est pas possible. C'était vraiment le déclenchement. Mais bon, au moment où on se dit ça, entre le moment où on se le dit et le moment où on se dit il va falloir partir, il se passe du temps parce qu'il y a une logistique à mettre en place. On ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Mais dans ma tête, c'était décidé. Je me suis dit, c'est terminé. Oui. Au début, on laisse des chances, on se dit, bon, ça va s'améliorer. On croit toujours, il y a toujours un espoir en disant, oui, il va revenir à de meilleurs sentiments, il va se calmer. Bon. Mais ce jour-là, c'était fini. Pour moi, c'était terminé. Donc, on ne peut pas accepter ça, parce que j'ai eu très très peur. Vous savez, quand j'ai entendu cette annonce, le gynécologue qui m'a annoncé cette nouvelle, pour moi, je me voyais finir, et je me disais, mais je peux pas laisser ma fille devenir orpheline, donc il va falloir que je me batte. J'ai pas le choix. Il faut que je me batte et je vais m'en sortir. Et pour moi, il était hors de question. J'aurais tout fait, mais absolument tout fait déjà l'opération. Et ensuite, j'étais au fond du trou. Mais alors après, j'avais une soif de vivre. Ça vous secoue tellement que on a une appétence, un nouvel appétit pour la vie.
Oui. Un courage, une nouvelle force.
Et donc ça donne encore plus d'énergie, encore plus de courage. Voilà, après, chacun réagit comme il peut. Moi, ça m'a motivé et ça a décuplé mes forces pour partir, pour m'en sortir, quoi.
Qu'est-ce que vous diriez aux victimes, en tout cas aux femmes qui sont ce soir là, sans doute discrètement, à écouter la radio, oui, pendant que Monsieur Q vous dort déjà, et qu'elle profite du calme, et qu'elle écoute cette libre antenne, et qu'elle entende votre témoignage de femme violentée, battue.
Qu'est-ce que
vous leur diriez?
Moi déjà, je leur dirais que ce sont mes sœurs des sœurs de combat, quelque part, parce qu'on est des sœurs invisibles. Mais je leur dirais que malgré tout, il faut garder l'espoir. Et je sais que c'est une situation extrêmement dure et qu'on est extrêmement seul. On est dans une solitude extrême. C'est difficile. Hein. Oui, on est dans une solitude extrême. C'est très dur, mais on peut s'en sortir. Mm-hmm. Alors, il faut compter que sur soi. Moi, j'ai compté beaucoup sur moi. J'ai eu aussi la chance d'avoir ma mère à côté de moi qui m'a accueillie, parce que sinon, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Donc, il faut une volonté de faire. Alors, je dis il faut, il y a qu'à. C'est pas il faut, il y a qu'à, mais maintenant que j'en suis sortie, je sais qu'on peut s'en sortir. Mais il faut être. On est seul, mais il ne faut pas rester seul. On est seul à prendre la décision, à se dire ok, maintenant c'est fini. Il faut que je tourne la page et essayer de trouver un moyen de s'enfuir, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. C'est la fuite. Il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir.
Oui.
C'est pas. Mais il faut avoir le courage de dire je tire un trait, je prends un sac. Un seul sac, c'est terminé, je ferme la porte et je m'en vais.
Mais il faut
c'est dur, hein.
Il faut
c'est
partir dur, hein. À la première claque aussi. Je pense que c'est très important de rappeler cela. C'est que, alors ça n'est pas facile, hein, mais je pense qu'il faut, c'est pas que je pense, hein, c'est que j'en suis certain. À la première claque, il faut organiser son départ. Vous dites que vous avez eu la chance d'avoir votre maman qui était là.
Oui, j'ai eu la chance. Vraiment, c'était de la chance. Parce qu'elle m'a accueillie. Elle m'a accueillie chez elle pendant 18 mois. Hein. Bon. Mm-hmm. Et, alors, c'est certain qu'elle n'habitait pas à côté. Que ensuite, je faisais des centaines de kilomètres par jour pour aller travailler.
Oui.
Mais si elle n'avait pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Parce qu'il faut un point de chute, c'est évident. Il faut pouvoir s'échapper. Je sais bien que toutes celles qui nous écoutent, qui sont victimes de violences, elles peuvent pas comme ça débarquer chez une amie. Ça va bien 15 jours, mais bon, pour se refaire, il faut quand même du temps. Il faut retrouver un logement. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se reloger avec un seul salaire, etc. Et on est face au dur de la réalité ensuite. Hein. On est face à des problèmes financiers, logistiques, organisationnels. Enfin, c'est vraiment l'émotionnel, à la limite, il va passer au second plan, pratiquement. Mais voilà. Il faut trouver beaucoup de force et d'énergie.
Oui.
Mais bon, je soutiens, on va dire, mes sœurs de cœur, parce que je sais qu'il y en a des milliers, et il y a beaucoup de personnes aussi qui n'osent pas aller faire des mains courantes. On sous-estime le chiffre, hein. Enfin, le chiffre il est vraiment sous-estimé, parce qu'il y a les chiffres officiels et puis il y a les chiffres et il y a toutes les personnes qui n'iront jamais dénoncer.
Mais je vais vous dire quelque chose. Ma chère Hélène, dans la prochaine saison de Dans les yeux d'Olivier, il y a un film que j'ai appelé Crime sexuel du statut de victime au statut de suspecte. Parce que aujourd'hui, il y a dans ce pays, dans notre beau pays qu'est la France, une sale habitude de nier la parole des femmes de manière systémique. C'est-à-dire que dans tous les secteurs de notre société, que cela soit dans le travail, dans la famille, parfois aussi dans un commissariat, malheureusement, lorsque des femmes sont agressées, il va leur falloir vraiment combattre pour être entendus.
Pour qu'on, oui, ça, alors,
pour qu'on les croit.
C'est vrai.
Pour qu'on les croit. Oui.
Oui, oui, parce que le jour où je suis allée faire ma première main courante, puisque c'était sur le conseil de mon avocate, le jour où on monte l'escalier avec la poussette, parce que moi je suis allée avec la poussette de ma fille.
Oui.
Eh bien, ce jour-là, j'étais reçue par un officier de police. J'avais l'impression que il venait prendre une déposition comme si on m'avait volé mon sac. C'était un peu ça, quoi. Donc, effectivement, j'étais pas vraiment prise au sérieux. Et on sort de là, on se dit, mais à quoi ça sert, quoi, finalement. Alors, il paraît qu'aujourd'hui,